Il est 8h.
Les concerts debout et la consommation debout dans les bars pourront reprendre. Les discothèques pourront rouvrir.
Voilà, Jean Castex donne le là le mois de février sous le signe de la levée des restrictions sanitaires, envoler le masque en extérieur, le télétravail obligatoire et les jauges. Le détail du calendrier dans un instant avec Céline Géraud. Un retour à une vie presque normale qui par ailleurs tombe à pic pour Emmanuel Macron. Le président pourrait surfer sur les bonnes nouvelles pour annoncer sa candidature. Et puis le spectre de la guerre froide ravivée, ça se tend un peu plus entre les États-Unis et la Russie sur le dossier ukrainien. Washington vient d'autoriser les pays baltes à livrer des armes à l'Ukraine dans le but de faire face à une éventuelle invasion russe. Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous voulez danser, sortir, vivre sans contrainte? Eh bien, on s'en approche. Hier soir, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la levée de la plupart des restrictions sanitaires à compter du 2 février. Mais avant, Céline Géraud, il faudra instaurer le pass vaccinal.
Effectivement, lundi prochain, les plus de 16 ans devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller au restaurant, au cinéma ou pour prendre les transports. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements de santé. Pour les 12-17 ans, la dose de rappel sera autorisée, mais pas obligatoire. Enfin, activation immédiate du pass vaccinal pour une première injection réalisée avant le 15 février, à condition de faire la deuxième injection dans un délai d'un mois et de présenter un test négatif de moins de 24 heures pour accéder dans l'intervalle aux différents lieux soumis au pass vaccinal. À partir du 2 février, plus de masques obligatoires en extérieur, plus de jauges dans tous les établissements recevant un public assis. Quant au télétravail, il sera recommandé mais plus obligatoire. À partir du 16 février, réouverture des discothèques, reprise des concerts avec un public debout. Prendre un verre debout, boire et manger dans les transports, les cinémas, les stades sera à nouveau possible. Enfin, dans les écoles, le masque pourrait ne plus être exigé en élémentaire et le protocole sur les autotests allégé, mais pas avant début mars. Au retour des vacances de février.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Alors il faut le noter, les chiffres de la contamination sont toujours importants. Plus de 425 000 nouveaux cas positifs hier. Mais les hospitalisations en soins critiques sont toujours en baisse. Et Omicron, bien que très contagieux, reste moins violent que Delta. C'est ce qui explique en grande partie les annonces d'hier soir. Parmi ces annonces, vous l'avez entendu, c'est bientôt la fin des jauges dans les salles de concert et les stades. Un vrai soulagement par exemple pour la Fédération Française de Rugby. Le 6 février, elle reçoit l'Italie pour le tournoi des Six Nations. Son vice-président Serge Simon.
Très 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 grande et belle nouvelle, oui. Avec un match le 6 février, on avait déjà vendu des dizaines de milliers de billets, donc on était sinon inquiet, en tout cas attentif à la décision. Et c'est un grand soulagement d'imaginer le 15 de France devant son public, pour l'Italie, pour l'Irlande, puis évidemment pour l'Angleterre. Quelque part, il y a une espèce d'amputation du match, hein, quand on jouait devant un huis clos et même devant une jauge limitée. De plus, c'est beaucoup de soucis organisationnels et pour aussi un préjudice financier qui est très très conséquent. Donc voilà, jauge normale, stade plein devant des supporters en fusion, devant un 15 de France performant. C'est une grande joie, encore une fois, je me répète.
La joie de Serge Simon, vice-président de la Fédération Française de Rugby. Dans les entreprises, le télétravail ne sera plus obligatoire, on l'a dit, mais seulement recommandé d'ici 2 semaines. Plus que 15 jours de travail à distance, 15 jours qui semblent une éternité pour beaucoup de patrons et de salariés, Maud Descamps.
Oui, à l'instar de Martin qui témoigne sur les réseaux sociaux, quand on habite dans 40 mètres carrés, difficile de couper le soir entre le travail et la vie privée, besoin de voir les collègues, ajoute-t-il. 2 semaines de télétravail en plus, une mauvaise nouvelle également pour Jacques Thibon, à la tête d'un groupe de plus de 700 salariés spécialisés dans le numérique.
On est à peu près même pas un tiers de l'activité normale. Les projets ne peuvent pas avancer, car bien souvent pour faire avancer les projets il faut des groupes de travail qui se font ou des échanges qui doivent avoir lieu avec les clients, et c'est beaucoup plus difficile d'organiser cela.
Une lassitude également ressentie par certains salariés. Morgane est ingénieure informatique. Pour elle, hors de question de télétravailler.
J'ai fait une demande auprès des RH pour venir parce que je ne pouvais plus travailler chez moi. Enfin, déjà je pétais un câble. Et du coup, les RH m'ont dit « Ok, tu peux venir 3 fois par semaine ». Enfin, sur place, je me suis rendu compte que personne ne vérifiait rien. Et du coup, j'ai décidé de venir tous les jours. Et ça fait plus d'un an que je viens tous les jours. et que je suis même pas au courant de ce que j'ai le droit de faire ou pas.
Le gouvernement prévoit des sanctions pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu, avec une amende de 500 euros par salarié, dans la limite de 50 000 euros.
Maud Descamps.
Cette levée des restrictions est une bonne nouvelle pour nous tous, évidemment, y compris pour Emmanuel Macron.
Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Jacques, politiquement, à quelques mois de l'élection présidentielle, on peut dire que le Premier ministre Jean Castex fait le lit de la campagne d'Emmanuel Macron.
Oui, car désormais, plus rien ne le retient de se lancer. Emmanuel Macron avait conditionné son entrée en campagne à une amélioration sur le front de l'épidémie. Eh bien, si la situation demeure précaire, Jean Castex a formalisé la décrue et fixé le calendrier. Des mesures dans 15 jours, d'autres dans un mois. Exactement la fourchette de temps que se donne le chef de l'État pour annoncer officiellement sa candidature. En attendant, il s'agit pour l'exécutif de donner de la visibilité aux Français, d'essayer de capitaliser sur cette sortie de crise alors que les oppositions se font de plus en plus critique. Débat houleux sur le pass vaccinal, protocole sanitaire incompris dans les écoles, manifestation des enseignants, polémique sur les vacances de Jean-Michel Blanquer. L'objectif pour Matignon et l'Élysée est aujourd'hui très clairement de tourner la page, de passer à autre chose, une nouvelle séquence qui doit être celle d'Emmanuel Macron, une fois l'horizon totalement dégagé.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1 en direct avec nous. Encore un mot sur le Covid. En Autriche, où le Parlement a adopté hier une loi sur la vaccination obligatoire, une première en Europe. Elle entrera en vigueur le 4 février prochain.
8h06 sur Europe 1 dans l'actualité internationale. Tous les regards se tournent vers Genève. À nouveau aujourd'hui, nouvelle rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et américaine sur l'épineux dossier ukrainien. Moscou ne cesse d'aligner soldats et matériel à la frontière ukrainienne. Menace d'invasion prise très au sérieux par Washington.
Et on est avec Alexis Guilleux, notre correspondant aux États-Unis. Alexis, cette rencontre en Suisse, Anthony Blinken la prépare depuis plusieurs jours avec les Européens, notamment hier à Berlin.
Oui, il fallait montrer que l'Europe et les États-Unis parlent d'une seule et même voix face à Moscou. Pourtant, on sait que les positions diffèrent au sein de l'OTAN sur l'ampleur des sanctions à prendre en cas d'invasion russe. Par exemple, faut-il exclure la Russie du système de virements internationaux SWIFT ? Si ce choix est fait, le commerce russe serait isolé du reste de la planète, mais cela aurait des répercussions sur les économies et les entreprises européennes. Les Américains pourraient de leur côté geler leurs exportations vers la Russie pour toucher principalement des secteurs comme l'armement ou l'aérospatial. Washington qui a par ailleurs sanctionné hier au porte-monnaie 4 ressortissants ukrainiens accusés de déstabiliser leur pays.
Alors voilà pour le volet des sanctions économiques envisagées. Alexis, cela s'active également militairement.
Oui, face à la pression russe qui s'accentue, la Maison-Blanche a autorisé le transfert d'armes de fabrication américaine depuis les pays baltes vers l'Ukraine. On parle là de systèmes de défense aérienne, d'armes anti-chars. Rien que le mois dernier, les États-Unis ont livré 200 millions de dollars de matériel militaire à l'Ukraine. Kiev demande ces armes aux Occidentaux depuis plusieurs mois pour pouvoir se défendre en cas d'attaque. De son côté, la Russie a annoncé hier des exercices navals pour les prochaines semaines. 10 000 militaires mobilisés dans l'Atlantique, l'Arctique, le Pacifique et en Méditerranée. C'est cette montée de tension que Russes et Américains vont tenter de désamorcer tout à l'heure à Genève.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
À la page économique, le constructeur Alstom, constructeur ferroviaire, annonce le recrutement de 7 500 personnes dans le monde cette année.
6 000 ingénieurs et managers, 1 500 ouvriers et techniciens. Objectif, répondre à un carnet de commandes record. Au 31 décembre, il se chiffrait à 77,8 milliards d'euros.
Allez, les sports, la qualification ce matin de Gaël Monfils pour les 8e de finale de l'Open d'Australie et puis un événement attendu par toute la planète combat ce week-end, le MMA.
Oui, il y aura la France à toutes ses chances. Hein. Cette fois, notre champion UFC Cyril Gane est à deux doigts d'être champion du monde. Rencontre dans la nuit de samedi à dimanche dans la banlieue de Los Angeles avec le Camerounais Francis Ngannou, surnommé le Prédateur. Ça promet du grand spectacle. Axel May, d'autant que Cyril Gane est on ne peut plus prometteur.
Dans cette salle californienne, Cyril Gane achève avec son entraîneur la préparation du plus important combat de sa jeune carrière. Réputé pour sa technicité, pour sa vitesse de déplacement, pour son coup d'œil aussi, le Guadeloupéen d'origine est venu tardivement à 24 ans aux disciplines de combat. Boxe thaï d'abord, MMA ensuite. Cyril Gane, 31 ans aujourd'hui, a vite grimpé les échelons de ce sport réputé très violent. Mais lui qui aime casser les codes, s'est choisi comme surnom Bon Gamin. L'athlète au physique impressionnant, 113 kilos quand il est affûté, pour 1m95, affiche un visage toujours souriant.
En fait, je suis 100% moi-même. Parce que j'ai toujours pensé que je pouvais toucher les gens en restant naturel, en fait, tout simplement. J'aime apporter cette image-là aux gens, dans leur tête. En tout cas, ça contraste pas mal avec ce sport-là. les gens se disent tout le temps, mais comment c'est possible, t'es gentil, t'es pas censé faire de la bagarre. Non, vous vous trompez, c'est un sport, c'est uniquement un sport.
En face, dans la cage, il y aura le Camerounais Francis Ngannou et sa puissance de frappe hors norme. En cas de titre, le bon gamin Gann poserait indiscutablement la France sur la carte du MMA mondial.
Axel, mais la France qui a tout juste légalisé le MMA, qui pourrait donc faire un bond de géant dans la discipline. Allez Cyril, c'est tout ce qu'on a envie de dire ce matin.
Oui. Francis Ngannou aussi, c'est du très prédateur contre
bien
bon
sûr,
gamin.
Mais ça va affiche. Être une affiche magnifique.
Voilà, interview croisée. Je veux dire que la planète MMA, ils sont en feu avec l'annonce de ce combat parce que ce sont deux combattants d'exception. Et en interview croisée dans Le Parisien ce matin, on sent un respect emprunt quand même, certaine distance de l'un par rapport à l'autre à quelques heures du combat.
C'est beau, c'est sport.
C'est sport, vous avez raison. Allez, un autre combat, un autre type de combat. La politique dans un instant. Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, est l'invité d'Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.